Chapitre 1. Madame Bantry rêvait. Ses pois de senteur venaient de remporter un premier prix à l'exposition florale. Le pasteur, revêtu de sa soutane et de son surplis, distribuait les récompenses dans l'église. Sa femme traversait nonchalamment l'auguste assemblée en maillot de bain, mais, heureux privilège des songes, cette incongruité ne soulevait pas parmi les paroissiens le tollé qu'elle eût assurément déclenché dans la réalité. Madame Bantry était ravie. Elle adorait ses rêves du petit matin qui s'achevaient par le premier thé de la journée. Le petit matin. Quelque part dans son subconscient, elle en percevait les bruits dans la maison. Le raclement sur leur tringle des rideaux de l'escalier tiré par la femme de chambre, celui du balai et du ramasse-poussière de la bonne dans le couloir, plus loin, le lourd claquement du loquet de la porte d'entrée que l'on déverrouillait. Un nouveau jour commençait. En attendant, il fallait profiter au maximum de cette exposition florale, car déjà sa nature onirique devenait de plus en plus apparente. À l'étage au-dessous, les persiennes en bois du salon furent ouvertes. Elle entendit sans entendre. Pendant une bonne demi-heure encore, la rumeur habituelle de la maison allait continuer, discrète, étouffée, sans la déranger tant elle lui était familière. Jusqu'à atteindre son point culminant, un pas alerte et assuré qui approcherait dans le couloir, le frôlement d'une robe de coton imprimé, l'infime tintement d'un service à thé posé avec le plateau sur la petite table derrière la porte, puis les coups légers frappés au battant et l'entrée de Marie pour tirer les rideaux. Dans son sommeil, Madame Bantry fronça les sourcils. Quelque chose d'insolite venait perturber son rêve, quelque chose d'intempestif. Les pas dans le couloir, trop précipités, trop tôt. Elle attendit inconsciemment les tintements de la porcelaine, mais la porcelaine, point ne tinta. Les coups furent toqués à la porte. De façon automatique, du fond de son sommeil, Madame Bantry répondit « Entrez !» On ouvrit. Elle attendit le glissement des rideaux sur leurs barres. Mais les rideaux ne glissèrent pas. Dans la pénombre verte de la chambre, la voix de Marie s'éleva, haletante, affolée.
« Madame ! Oh, Madame, il y a un cadavre dans la bibliothèque !»
Puis, secouée de sanglots nerveux, elle se précipita hors de la pièce. Madame Bantry se dressa sur son séant. Soit son rêve avait pris une tournure très étrange, soit Marie avait vraiment fait irruption dans la chambre et dit, incroyable, extravagant, qu'il y avait un cadavre dans la bibliothèque. Impossible, décréta Madame Bantry. J'ai dû rêver. Mais tout en prononçant ces mots, Madame Bantry était de plus en plus certaine qu'il n'en était rien et que Marie, d'ordinaire si maîtresse d'elle-même, avait effectivement lancé ces paroles stupéfiantes. Après une minute de réflexion, elle balança un coude conjugal et impérieux dans les côtes de son mari endormi.
« Arthur ! Arthur ! Réveille-toi ! »
Le colonel Bantry grogna, grommela et se retourna sur le côté.
« Réveille-toi, Arthur ! Tu as entendu ce qu'elle a dit ?»«
Affirmatif. » marmonna le colonel. « Je suis entièrement d'accord avec toi, Dolly. »
Sur quoi il se rendormit comme une souche. Madame Bantry le secoua.
« Mais écoute donc, Marie est entrée et a dit qu'il y avait un cadavre dans la bibliothèque.
Hein »« Hein? Quoi?
Un cadavre dans la bibliothèque ? » ?»«
Qui est-ce qui a dit ça ?
Marie !»
Le colonel Bantry rassembla ses idées et essaya de prendre la situation en main.
« Tu dérailles, ma pauvre vieille. Tu as dû rêver. »
« Non, je n'ai pas rêvé. C'est ce que je croyais aussi au début, mais non, elle est bien entrée pour dire ça. »
« Marie est entrée ici pour dire qu'il y avait un cadavre dans la bibliothèque. »
« Oui. »
« Je ne vois pas ce qu'il ficherait là, voyons. »
« Non, bien sûr. »
fit Madame Bantry peu convaincue. Elle revint à la charge.
« Mais alors pourquoi Marie a-t-elle dit qu'il y en avait un ?»«
Elle n'a pas pu dire ça. »«
Je t'assure que si. »«
Tu as dû te l'imaginer. »«
Je n'ai rien imaginé.
Le colonel Bantry était complètement réveillé à présent et bien décidé à remettre les choses à leur place.
Tu as rêvé, Dolly, voilà tout. C'est à cause de ce roman policier que tu viens de lire, Le mystère de l'allumette brisée. Tu sais bien, celui où Lord Edgbaston découvre une magnifique blonde réduite à l'état de cadavre sur la peau d'ours de la cheminée de sa bibliothèque. C'est toujours là qu'on les trouve, les cadavres, dans les livres. Mais je n'en ai jamais rencontré un seul dans la vie courante.
Tu vas peut-être en rencontrer un maintenant. De toute façon, Arthur, il faut te lever pour aller voir.
Écoute, Dolly, c'est forcément un rêve. Les rêves, ça impressionne souvent quand on se réveille. On jurerait qu'ils sont vrais.
Je rêvais de toute autre chose. Une exposition florale et la femme du pasteur qui se promenait en maillot de bain, tu vois le genre.
Mu par un élan d'énergie soudain, Madame Bantry sauta hors du lit et tira les rideaux. La lumière d'un beau jour d'automne inonda la chambre.
« Je n'ai pas rêvé !» répéta-t-elle avec force. « Lève-toi immédiatement, Arthur, et descends voir de quoi il retourne !»«
Tu veux que je descende demander s'il y a un cadavre dans la bibliothèque ?»« Je vais avoir l'air malin. »«
Tu n'auras pas besoin de demander quoi que ce soit !» répondit-elle. « S'il y a vraiment un cadavre... » »« D'accord, il est toujours possible que Marie soit devenue folle et qu'elle ait des hallucinations. » On te le dira bien assez vite. Toi, tu n'auras pas un traître mot à prononcer. »
En grommelant, le colonel Bantry s'enveloppa dans sa robe de chambre et quitta la pièce. Il suivit le couloir et descendit l'escalier. Au bas des marches, il trouva un petit groupe de domestiques pelotonnés les uns contre les autres. Certains sanglotaient. Le maître d'hôtel s'avança, la mine grave.
« Je suis bien content que monsieur soit là. J'ai donné ordre qu'on ne touche à rien jusqu'à l'arrivée de monsieur. Monsieur désire-t-il que j'appelle la police ?»«
Appeler la police ? Pourquoi ?»
Le maître d'hôtel jeta un regard plein de reproches en direction de la grande jeune femme qui pleurait convulsivement sur l'épaule de la cuisinière.
« Je pensais que Marie avait mis monsieur au courant. Elle a prétendu l'avoir fait. »«
J'étais tellement retournée !»
balbutia Marie d'une voix entrecoupée.
« Que je ne sais pas ce que j'ai raconté. Je ne tenais plus sur mes jambes et j'ai failli tomber dans les pommes. À trouver un... comme ça oh !»
Elle s'abandonna de nouveau sur l'épaule de Madame Eccles.
« Allons, allons, ma pauvre !»
la consola cette dernière, non sans une certaine délectation.
« Marie est émue. « C'est elle qui a fait la macabre découverte, » expliqua le maître d'hôtel. « Elle est entrée dans la bibliothèque pour ouvrir les rideaux, comme d'habitude, et elle a manqué de trébucher sur le cadavre. »«
Vous voulez dire, » cria presque le colonel Bantry, « qu'il y a un cadavre dans ma bibliothèque ? Dans ma bibliothèque ?»
Le maître d'hôtel toussa.
« Peut-être, monsieur, désire-t-il... » en jugé par lui-même.
Allô ? Allô, allô, ici le poste de police qui est à l'appareil.
L'agent Palk boutonnait sa veste d'uniforme d'une main, tandis qu'il tenait le combiné de l'autre.
Le manoir de Gossington ?
Oui, alors, qu'est-ce que vous voulez ?
Quoi ?
Oh, bonjour, colonel.
L'agent Palk avait sensiblement baissé le ton. Dès qu'il avait reconnu le généreux mécène des sports de la police et principal magistrat du district, sa voix avait perdu de sa sécheresse.
« Que puis-je pour vous, colonel ? Excusez-moi, colonel, mais je n'ai pas bien saisi. Un cadavre, dites-vous ?
Oui ? Oui, je vous en prie, colonel.
C'est ça, colonel.
Une jeune femme que vous ne connaissez pas, dites-vous ?
Ah, tout à fait, colonel. Oui, vous pouvez compter sur moi.
L'agent Palk reposa le téléphone, émit un long sifflement et entreprit de composer le numéro de son supérieur. Madame Palk jeta un coup d'œil par la porte de la cuisine, d'où filtrait une appétissante odeur de bacon en train de frire.
Qu'est-ce que c'est ?
La chose la plus ahurissante que tu puisses imaginer, répondit son mari. On a trouvé le cadavre d'une jeune femme à Gossington, dans la bibliothèque du colonel.
assassiné ?
Étranglé, d'après lui.
C'était qui ?
Il dit qu'il ne la connaissait ni d'Ève ni d'Adam.
Alors, qu'est-ce qu'elle fichait dans sa bibliothèque ?
L'agent Palk la fit taire d'un regard réprobateur et prit sa voix la plus officielle pour parler dans l'appareil.
Inspecteur Flemme, ici Palk. On vient de me signaler la découverte du cadavre d'une jeune femme ce matin à 7h15.
Le téléphone de Miss Marple sonna tandis qu'elle s'habillait. Ce qui, vu l'heure inhabituelle, l'a mis quelque peu en émoi. Sa vie rangée de vieilles demoiselles était tellement réglée que les appels téléphoniques inattendus étaient source de vives conjectures.
« Ça, par exemple !»
fit-elle en lorgnant d'un œil perplexe l'appareil qui insistait.
« Qui cela peut-il bien être ?»
De 9h à 9h30 du matin, tel était le créneau généralement admis au village pour les appels amicaux entre voisins. Les projets de la journée, les invitations, tout se discutait à ce moment-là. On savait qu'il était arrivé au boucher de téléphoner juste avant 9h, lors d'exceptionnelles difficultés d'approvisionnement. Un coup de fil pouvait survenir de temps à autre pendant la journée, mais il était toujours mal vu d'appeler après 9h30 du soir. Il est vrai que le neveu de Miss Marple, écrivain, donc farfelu, s'était déjà manifesté aux heures les plus aberrantes, une fois même à 9h10. Mais il avait beau être excentrique, Raymond West n'était pas matinal. Ni lui, ni aucune des connaissances de Miss Marple n'était susceptible d'appeler avant 8h du matin. 8h moins le quart, en fait. Trop tôt pour un télégramme, même, puisque la poste n'ouvrait qu'à 8h.
« Ce doit être une erreur », décida-t-elle.
Cette certitude acquise, elle se dirigea d'un pas résolu vers l'appareil impatient et coupa court à l'insistance de la sonnerie en décrochant le combiné.
« Oui ?»
fit-elle.
« C'est vous, Jane ?»
Stupeur de Miss Marple.
« Oui, c'est moi. Vous êtes bien matinale, Dolly. »
La voix de Madame Bantry lui parvint, haletante, de l'autre bout du fil.
« Il est arrivé quelque chose de terrible !»«
Seigneur Dieu !»«
Nous venons de trouver un cadavre dans la bibliothèque !»
L'espace d'un instant, Miss Marple crut que son amie avait perdu la raison.
« Vous avez trouvé quoi ?»
« Je sais. Ça paraît incroyable, n'est-ce pas ? Je pensais que ces choses-là n'arrivaient que dans les romans. Il m'a fallu des heures pour convaincre Arthur de descendre voir. »
Miss Marple essaya de rassembler ses esprits.
« Mais c'est le cadavre de qui ? » demanda-t-elle suffoquée.
« Une blonde. »«
Une quoi ? » ?»«
Une blonde. Une blonde magnifique, comme dans les romans, encore une fois. » Aucun de nous ne l'avait jamais vue, et elle est étalée, là, dans la bibliothèque. Tout ce qu'il y a de plus morte. Il faut que vous veniez tout de suite.
Moi ? Vous voulez que je vienne ?
Oui, je vous envoie une voiture.
Miss Marple ne paraissait guère enthousiaste.
Bien sûr, ma chère, si vous croyez que je peux vous donner un peu de réconfort.
Oh, ce n'est pas de réconfort dont j'ai besoin, mais vous vous débrouillez si bien avec les cadavres.
« Pas du tout, voyons. Mes petits succès n'ont toujours été que purement théoriques. »«
Non, non. Question meurtre, vous êtes inégalable. Et c'en est un, voyez-vous. Elle a été étranglée. Moi, je suis d'avis que quand on a un assassiné chez soi, autant en profiter, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que je vous appelle, pour m'aider à démasquer le coupable, à élucider le mystère et tout. C'est follement excitant, non ?»«
Oui, bien sûr. » Si je peux vous être utile.
Parfait. Arthur rechigne, lui. Il ne paraît pas apprécier que je goûte le côté réjouissant de la chose. Bon, que voulez-vous ? Je sais bien que c'est triste, mais enfin, je ne la connaissais pas, moi, cette fille. D'ailleurs, quand vous la verrez, vous serez d'accord avec moi. Elle n'a pas l'air réelle pour deux sous.
Un peu essoufflée, Miss Marple descendit de la voiture des Bantry, dont le chauffeur lui ouvrait la portière. Le colonel s'avança sur le perron, l'air un peu surpris.
« Miss Marple, je... quel bon vent vous amène ?»«
Votre femme m'a téléphoné, » expliqua-t-elle.
« Parfait, parfait. Il lui faut de la compagnie, c'est vrai. Sinon, elle va finir par craquer.
Elle arrive à garder bonne contenance pour l'instant, mais vous savez ce que c'est.
Madame Bantry apparut à son tour. Retourne donc à ton petit déjeuner, Arthur. Ton bacon va refroidir.
Je me disais que c'était peut-être l'inspecteur qui arrivait, dit le colonel Bantry.
Il ne va pas tarder, répondit sa femme. C'est pourquoi il faut que tu déjeunes avant. Tu en as bien besoin.
Toi aussi, tu devrais rentrer manger quelque chose, Dolly.
J'arrive tout de suite. Dépêche-toi, Arthur.
Le colonel Bantry fut renvoyé vers la salle à manger comme une volaille récalcitrante.
Ouf !
S'écria Madame Bantry sur un ton de triomphe.
Allons-y maintenant !
Elle entraîna Miss Marple le long du grand corridor qui menait vers l'aile est du manoir. Devant la porte de la bibliothèque, l'agent Palk montait la garde. Il barra la route à Madame Bantry avec autorité.
« Désolé, madame. Personne n'a le droit d'entrer. Ordre de l'inspecteur. »«
C'est ridicule, Palk. Vous connaissez très bien Miss Marple. »
L'agent Palk en convint.
« Il est essentiel qu'elle puisse voir le corps, » insista Madame Bantry. « Alors soyez raisonnable, Palk. Et puis c'est ma bibliothèque, non ?»
Le policier s'effaça, comme il avait eu toute sa vie l'habitude de s'effacer devant les gens du monde. L'inspecteur n'aurait pas besoin de savoir, après tout.
« Surtout, mesdames, il ne faut rien toucher, rien déplacer. »«
Nous sommes au courant, » répliqua Madame Bantry avec impatience. « D'ailleurs, vous n'avez qu'à entrer et nous garder à l'œil si ça vous chante. »
L'agent Palk l'a pris au mot. Telle avait été, en tout état de cause, son intention première. Madame Bantry fit traverser la bibliothèque à son amie d'un air triomphant et la mena devant la grande cheminée à l'ancienne.
« Voilà !»
fit-elle en pointant un index théâtral. Miss Marple comprit aussitôt ce que son amie avait voulu dire en parlant d'irréalité. La bibliothèque reflétait bien ses propriétaires. C'était une vaste pièce fanée où régnait un désordre sympathique. Les gros fauteuils avaient connu des jours meilleurs. Pipes, livres et papiers administratifs traînaient pêle-mêle sur la grande table. Au mur, quelques vénérables portraits de famille côtoyaient de mauvaises aquarelles victoriennes et des scènes de chasse qui se voulaient humoristiques. Un grand vase d'astère décorait l'un des coins. Dans la pénombre ambiante, les couleurs délavées et la simplicité du mobilier attestaient d'une occupation quotidienne, ainsi que d'un évident respect pour la tradition. Et au milieu de tout ça, gisant sur la peau d'ours devant la cheminée, une chose insolite, vulgaire, mélodramatique. Le cadavre invraisemblable d'une fille. Une fille aux cheveux trop blonds coiffés en un entrelac compliqué de boucles et de frisettes. Son corps mince était vêtu d'une robe du soir à dos nu en satin blanc pailleté. Elle était exagérément maquillée. La poudre ressortait de façon grotesque sur la peau bleuie et gonflée de son visage. Le rimmel épais avait coulé sur ses joues déformées. Le rouge de ses lèvres ressemblait à une blessure. Les ongles de ses mains arboraient un vernis rouge sang, de même que ceux de ses orteils dans leurs sandales argentées bon marché. Une silhouette clinquante. Criarde, tape à l'œil, tout à fait incongru dans le confort vieillot de la bibliothèque du colonel Bantry.
Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas vraie!
La vieille personne qui l'escortait hocha la tête. Elle jeta un long regard pensif sur la forme recroquevillée.
Elle était très jeune, remarqua-t-elle doucement. Tiens, c'est vrai! « Vous avez raison, »
dit Madame Bantry, d'un air presque surpris, comme quelqu'un qui vient de faire une découverte. Miss Marple se pencha. Elle ne toucha pas le corps. Elle observa les doigts accrochés à la robe, comme si la fille l'avait agrippée dans ses derniers soubresauts pour aspirer une bouffée d'air. Au dehors, les pneus d'une voiture crissèrent sur le gravier.
« Ça doit être l'inspecteur !» annonça l'agent Palk.
Pour ne pas réduire à néant l'absolue confiance du policier en la loyauté des gens du monde, Madame Bantry fit immédiatement retraite vers la porte. Miss Marple l'imita. Rassurez-vous, Palk, nous ne soufflerons pas mot de tout ceci, affirma Madame Bantry. Lequel agent Palk en ressentit un immense soulagement. Avalant à la hâte les derniers morceaux de son toast à la marmelade avec une gorgée de café, le colonel Bantry se précipita dans le couloir et fut rassuré de voir le colonel Melchett, chef de la police du comté, descendre de voiture, hélas accompagné de l'inspecteur Flemm. Melchett était un ami. Flemm, en revanche, le colonel Bantry ne l'appréciait guère. L'inspecteur déployait volontiers une énergie débordante, démentissant ainsi son patronyme, et son ardeur fébrile s'accompagnait du mépris le plus profond pour les états d'âme des gens qu'il ne jugeait pas importants.
« Bonjour, Bantry, » dit le chef de la police. « J'ai tenu à venir moi-même. C'est une affaire peu banale, dirait-on. »«
C'est... » balbutia le colonel qui cherchait ses mots. « C'est incroyable, extravagant !»«
Et vous ne connaissiez pas cette femme ?»«
Pas le moins du monde. Je ne l'avais jamais vue de ma vie. »«
Le maître d'hôtel, il sait quelque chose ?» demanda Flemm.
Lorimer est aussi abasourdi que moi.
Ça, c'est lui qui le dit.
Le colonel Bantry se tourna vers son ami.
Le petit déjeuner est servi, Melchett. Si vous voulez prendre quelque chose...
Non, non, le boulot d'abord. Haydock ne devrait pas tarder. D'ailleurs, le voilà.
Une voiture s'arrêta et le docteur Haydock, praticien à la carrure impressionnante, qui faisait également office de médecin légiste, en descendit. Deux hommes en civil, dont l'un muni d'un appareil photo, sortirent d'un autre véhicule de police.
« Tout le monde est là ?»
demanda le chef de la police.
« Bon, alors allons-y. »« Dans la bibliothèque, » m'a dit Flemm.
Le colonel Bantry émit un grognement.
« C'est insensé. Vous savez, ma femme a dû me répéter plusieurs fois que la domestique lui avait dit qu'il y avait un cadavre dans la bibliothèque. Je ne voulais pas la croire. »
« Je vous comprends. J'espère qu'elle n'est pas trop secouée par tout ça, la patronne. »
« Elle a été merveilleuse, vraiment merveilleuse. Elle a fait venir la vieille Miss Marple, la terreur du village, vous la connaissez. »
Le chef de la police se raidit.
« Miss Marple ? Et pourquoi diable l'a-t-elle fait venir ?
Bah, une femme a besoin de compagnie féminine, vous savez ce que c'est.
Si vous voulez mon avis,
fit le colonel Melchett avec un petit ricanement,
votre femme va s'essayer au jeu du détective amateur. Miss Marple, c'est le limier du coin. Elle nous en a déjà remontré une fois. Pas vrai, Flemm ?
Ça n'avait rien à voir, répliqua l'inspecteur.
Rien à voir avec quoi ?
Il s'agissait d'une affaire locale. Au village, elle sait tout ce qui se passe, la vieille, c'est sûr. Mais ici, elle ne sera plus dans son élément.
Vous non plus, Flemm, fit sèchement Melchett.
Attendez que je me mette dans le bain, patron. Vous allez voir ce que vous allez voir.
Dans la salle à manger, Madame Bantry et Miss Marple prenaient à leur tour le petit déjeuner.
« Eh bien, Jane !»
fit impatiemment Madame Bantry après avoir servi son amie. Celle-ci leva sur elle un regard un peu dérouté.
« Cela vous rappelle-t-il quelque chose ?»
insista Madame Bantry avec espoir. C'est en effet grâce à son habileté à faire la lumière sur de graves problèmes par rapprochement avec de menus événements de la vie du village que Miss Marple avait acquis sa notoriété.
« Non !»
fit-elle après un moment de réflexion.
« Je ne peux pas dire. Pas pour le moment, en tout cas. La pauvre gosse me fait tout juste un peu penser à la cadette de Madame Chetty. Eddie, vous savez, mais je crois que c'est seulement à cause de ses ongles rongés et de ses dents de devant légèrement en avant. Rien de plus. Et aussi, bien sûr, poursuivit Miss Marple, poussant le parallèle un peu plus loin, parce qu'Eddie aimait ce que j'appelle les fanfreluches à quatre sous.
Vous faites référence à la robe?
Oui, c'est du satin tape à l'œil et de mauvaise qualité.
Je sais, dit Madame Bantry, du genre qu'on trouve dans ces friperies à tout à une guinée.
Au fait,
s'empressa-t-elle de demander,
qu'est-elle devenue la fille de Madame Chetty?
Elle vient de se trouver une nouvelle place. Elle se débrouille très bien, je crois. Madame Bantry fut un peu déçue. Le parallèle avec le village ne semblait guère prometteur cette fois.
« Ce que je n'arrive pas à comprendre, poursuivit-elle, c'est ce que cette fille pouvait bien fabriquer dans la bibliothèque d'Arthur. Palk m'a dit que la fenêtre avait été forcée. Alors, elle a pu venir ici avec un cambrioleur et ils se seraient disputés. Ça paraît plutôt farfelu, non ? D'autant qu'elle n'était guère habillée pour un cambriolage, remarqua pensivement Miss Marple. Plutôt pour aller au bal ou à une surprise partie. Mais il n'y a rien eu dans ce goût-là par ici, ni dans les environs.
Non, hésita Miss Marple. Madame Bantry bondit.
Vous avez quelque chose en tête, Jane ?
Je me demandais juste...
Oui ?
Basil Blake.
Oh non !
Se récria impulsivement Madame Bantry avant d'expliquer « Je connais sa mère ». Les deux femmes se regardèrent. Miss Marple poussa un soupir et dodelina de la tête.
« Je comprends très bien votre point de vue, mais... Célina Blake est la plus exquise des femmes. Ses bordures de plantes herbacées sont tout bonnement divines à me faire pâlir de jalousie. Et elle n'est pas avare en bouture avec ça. »
Miss Marple ignora ces titres de respectabilité portés au crédit de Madame Blake. Tout de même, on en raconte sur son fils.
Oh, je sais, je sais. Et bien sûr, Arthur saute au plafond dès qu'il entend parler de Basil Blake. Il faut avouer que ce garçon a été très grossier avec lui, ce qui fait qu'il n'est plus en odeur de sainteté. Il a le même mépris hautain que tous ces jeunes gens d'aujourd'hui qui n'ont que sarcasme à la bouche pour ceux qui songent encore à défendre leur université, l'Empire britannique et d'autres valeurs d'un autre âge. Et puis, entre nous, les vêtements dont il s'affuble. D'aucuns prétendent, poursuivit-elle, qu'à la campagne, on peut porter ce qu'on veut. Je n'ai jamais entendu pareille absurdité. C'est justement là qu'on vous remarque le plus.
Elle s'interrompit et ajouta, nostalgique.
C'était pourtant un adorable bébé dans son bain.
L'assassin des Montchiviot aussi était un adorable bébé sur la photo du journal de dimanche dernier, rétorqua Miss Marple.
Oh, Jane, vous ne pensez tout de même pas que c'est lui qui...
Non, non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Loin de moi l'idée d'accuser sans preuve. J'essayais tout juste de comprendre la présence de cette jeune femme ici. Ce n'est vraiment pas le genre de Sainte Mary Mead. Et il m'a semblé que la seule explication possible était Basil Blake. Lui, il organise des surprises parties. Vous vous rappelez juillet dernier, quand cette bande d'énergumènes a débarqué de Londres? Ça a crié, ça a chanté à tue-tête, un tapage infernal. Tous complètement ivres, me suis-je laissé dire. Le désordre et le nombre de verres brisés le lendemain matin, c'était à peine croyable. C'est du moins ce que la vieille Madame Berry m'a raconté. La malheureuse est même tombée sur une jeune femme presque nue qui ronflait dans la baignoire.
C'était sans doute des gens de cinéma, minimisa Madame Bantry, indulgente.
Qui d'autre cela pourrait-il être ? Pour couronner le tout, vous avez dû en entendre parler. Il a reçu une jeune femme plusieurs week-ends de suite ces derniers temps. Une blonde platine.
Vous ne pensez pas qu'il s'agit de celle-ci ? S'exclama Madame Bantry.
Je me posais la question, figurez-vous. Il est vrai que je ne l'ai jamais aperçue que de loin, juste en train de monter et descendre de voiture. Et une fois, de se faire bronzer dans le jardin du cottage en short et en soutien-gorge. Je n'ai jamais vraiment vu son visage. Ces filles, avec leur maquillage, leur coiffure et leurs ongles faits, elles se ressemblent toutes.
Oui, mais quand même, ça se pourrait. C'est une idée, Jane.